France Culture, les romans qui ont changé le monde, Mathias Hénard.
Les romans changent-ils le monde ? Pendant deux semaines, nous explorons 10 œuvres dont on peut assurer qu'elles ont changé quelque chose à la littérature et au 20e, voire au 21e siècle, en compagnie d'autrices, d'auteurs, de spécialistes de la littérature, d'Europe et d'ailleurs. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dernière station dans les romans qui ont changé le monde en 2014. Année de la parution en Pologne du roman Les Livres de Jacob de l'autrice polonaise Olga Tokarczuk, paru ensuite en français dans une traduction de Marie Laurent en 2018 aux éditions Noir sur Blanc. De son titre complet, Les Livres de Jacob ou le grand voyage à travers 7 frontières, 5 langues et 3 grandes religions et d'autres moindres, c'est le roman du 18e siècle dans l'Est de l'Europe. Un roman gigantesque de 1000 pages centré sur la figure de Jacob Frank, messie des Juifs, et à travers elle une évocation passionnante et démesurée des territoires compris entre la mer Baltique et l'Empire Ottoman, entre Lublin et Istanbul, où l'on croise des dizaines de personnages, tous historiques ou peu s'en faut, dressant un tableau incroyablement vivant de ce siècle des Lumières orientales, comme si le carrosse d'une eau forte se mettait soudain à bouger devant nous pour nous emporter vers Salonique. Pour évoquer ce roman absolument hors du commun, nous avons la chance d'avoir parmi nous tout d'abord la traductrice du texte en français, Marie Laurent. Marie Laurent, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été professeure responsable des études polonaises à l'université de Lille. Et à part les livres de Jacob, vous avez traduit d'Olga Tokarczuk les recueils de nouvelles Jeux sur tambour et tambourin, Maison de jour, Maison de nuit, Histoire bizarroïde, mais aussi le discours de réception du prix Nobel et autres essais. Bonjour Jean-Yves Potel.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste de la Pologne, ancien conseiller culturel de la France à Varsovie. Et vous êtes l'auteur d'un essai notamment sur la Pologne face à son passé juif, paru aux éditions Autrement. Et dans quelques jours paraîtra aux éditions Circé un essai intitulé « L'Europe nue ». Et vous êtes par ailleurs membre de la rédaction d'En attendant Nado. Et vous avez eu la chance de vous entretenir avec Olga Tokarczuk au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris à propos des livres de Jacob en 2018. Et bonjour Mathieu Larnaudy.
Bonjour.
Mathieu Larnaudy, vous êtes romancier et éditeur, membre du comité de lecture des éditions du Seuil. Vous êtes aussi l'auteur de 3 romans aux éditions Actes Sud, Les Effondrés, Acharnement et Notre désir est sans remède. Votre dernier roman paru s'intitule Blockhaus et paru aux éditions Inculte en 2020. Mais pour commencer, si vous le voulez bien, écoutons d'abord un premier extrait du texte, traduit par Marie Laurent, ici présente, Les Livres de Jacob d'Olga Tokarczuk, lu par la comédienne Élodie Huber.
Ces jours de foire et le carrosse à suspension, couleur saumon à fioritures dorées, avec le blason des potoki peint sur les portières, mené par un cocher assis sur son siège et accompagné de cavaliers en uniforme chatoyant, provoque un émoi peu banal dès les abords de la petite ville. Il s'arrête sans cesse, car la route est encombrée de piétons et de bêtes. À rien ne sert le fouet qui claque au-dessus des têtes. Dissimulées dans l'habitacle comme dans un coquillage précieux, les deux femmes voguent à travers les eaux tumultueuses de la foule multilingue et enfiévrée. Finalement, comme il était à prévoir dans cette cohue, la berline s'empale sur un timon et y casse son ressort de dalem, une amélioration récente. L'accident ne fera désormais que compliquer le voyage. La palatine tombe de son siège et son visage se tord de douleur. Non sans pester, Madame Drousbaka saute directement dans la boue pour chercher de l'aide. Elle se tourne d'abord vers deux femmes qui portent des paniers, mais celles-ci se mettent à rire avant de se sauver tout en échangeant des propos en ruthen. Ensuite, elle saisit par la manche un juif en bonnet et manteau, il essaie de comprendre ce qu'elle lui veut, il va jusqu'à lui répondre dans sa langue et lui indique quelque chose dans le bas de la ville, vers la rivière. Impatientée, Madame Drousbaka barre le chemin à deux marchands d'allure respectable qui viennent de sortir d'un coche pour s'approcher de l'attroupement. Mais ils doivent sans doute être arméniens et de passage, ils ne font que remuer la tête. À côté d'eux, des Turcs observent Madame Drousbaka avec ironie, à ce qu'il lui semble.
Nous venons d'entendre un extrait des livres de Jacob d'Olga Tokarczuk, l'arrivée de ce carrosse dans la ville de Roatine, donc deuxième moitié du XVIIIe siècle. On arrive où, Mirella Laurent, quand on arrive à Roatine à cette époque?
Je pense que Olga dit qu'elle écrit quelque chose et que c'est au lecteur de s'imaginer où c'est. et que c'est une collaboration. On dit que c'est une unité psychologique. Et je pense qu'il faut laisser à tous les lecteurs s'imaginer. Et je trouve que c'est très bien d'avoir choisi cet extrait-là, parce que Olga aussi dit que l'écriture s'impose à elle. C'est une image, elle voit un tableau, et quand ces tableaux s'imposent à elle, elle les écrit. Et je pense que c'est vrai, parce que pour la traduire, c'était un texte, pour moi, incroyablement facile à traduire. Parce que quand je le lisais en polonais, c'est tellement imagé, c'est tellement précis. On voit cette cohue, on voit ce multilinguisme, on voit cette podolie dont personne ne sait plus où ça pouvait se trouver, sauf peut-être les historiens.
On va poser la question tout à l'heure à l'historien.
On va poser la question aux historiens. Et tout à coup, ces terres supposées polonaises, mais où en fait on parle toutes les langues, et puis ces personnages qui sont hauts en couleur, et on est immédiatement dans la vie. Et moi, quand je devais traduire ce texte, eh bien, comme je le voyais, je pouvais presque l'écrire et juste vérifier après que c'était bien ça. Tellement c'est précis chez elle et c'est ce côté extraordinaire chez elle. Et à chaque page, le lecteur qui veut être introduit dans d'autres paysages, eh bien, il sera toujours dépaysé, mais le paysage est très précis. Elle le voit et elle l'écrit tel qu'elle le voit. C'est une vision.
Jean-Yves Potel, alors, où se trouve cette ville de Roatine et qu'est-ce que la Podolie ?
Je vais d'abord, avant de répondre exactement à cette question, vous raconter la fin de ce passage, parce que la fin de ce passage est très intéressante, parce que cette Polonaise, qui d'ailleurs est un personnage très intéressant, qu'on verra plus tard, demande de l'aide. Elle s'adresse à des gens qui lui parlent des sortes de langues, et finalement elle s'énerve, et elle dit « Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle polonais ici ?» Et donc cette question, elle est très importante pour voir comment Olga Tokarczuk voit cette région. Parce que on est en Podolie, actuellement c'est en Ukraine, on est dans la zone est de la Grande Pologne. La Grande Pologne, c'est-à-dire la Rzeczpospolita, c'était la république des deux nations, qui a été pendant très longtemps le plus grand, sinon le plus vaste, et non le plus puissant État dans cette région. Vous vous rappelez quand même qu'à une époque, ils ont occupé Moscou.
Et là, on est déjà dans la République des Trois Nations.
Oui, on est trois nations. Oui, on est en une période où, justement, il y a cohabitation entre de nombreuses nationalités, mais en même temps, cette cohabitation entre nationalités, elle est contraire à l'image que les Polonais d'aujourd'hui, enfin ceux qui héritent du régime communiste, etc., ont de cette période. Parce qu'on a l'image d'une période polonaise, qui a été en grande partie construite par les romantiques et relayée par les nationalistes de l'entre-deux-guerres, qui est l'image d'une grande puissance, disons, culturelle, entre autres, et qui cohabitait très bien avec d'autres nationalités, parce qu'il y avait plusieurs nationalités, ça on le reconnaissait. Alors que celle qu'elle va nous décrire, Olga, c'est une région en pleine décadence, on est à la fin de la République, avec la misère et avec des minorités, mais beaucoup de conflits entre ces minorités. Des conflits qui peuvent être extrêmement violents, avec les Juifs, mais pas qu'avec les Juifs. Et qui fait que ça se traduit par la domination de telle ou telle langue, de telle ou telle religion, à tel ou tel moment. Et donc ça crée une situation où on n'est pas du tout dans l'image que l'on a après la Seconde Guerre mondiale, d'une Pologne dominante, avec une nationalité polonaise dominante, une langue polonaise dominante. Il y a d'ailleurs une discussion sur la langue dominante, et on ne parle pas du polonais, on parle du latin. Et ça n'a pas du tout été apprécié en Pologne, au début par les nationalistes en particulier. Ils n'ont pas du tout aimé ce genre de passage, où on ne montre pas une belle Pologne unie, mais on voit une Pologne qui est en décadence avec beaucoup de conflits internes.
Alors, il faut expliquer ce que c'est que cette république des deux ou des trois nations, qui n'est pas, d'ailleurs, à proprement parler une république, puisque c'est un roi élu parmi les deux ou trois monarques par une diète qui, elle, est commune à l'ensemble de ces deux territoires et qui va durer, si je ne me trompe pas, jusqu'au premier partage de la Pologne.
En 1772, je me souviens bien.
Oui, voilà. Et puis la fin définitive, c'est en 1791.
C'est-à-dire que ça va commencer à partir du milieu du XVIIIe siècle, il y a toujours eu des guerres avec les voisins, notamment avec les Suédois, etc. Mais vous avez toute une série de guerres. Et en fait, les trois empires qui sont voisins de cette République des Trois Nations sont les Russes, les Ottomans, et les Autrichiens et les Prussiens. Et donc les Autrichiens, les Prussiens et les Russes vont se partager toute cette zone. Et c'est ça qui va créer une spécificité. Après, dans la culture polonaise, vous avez une zone qui est très influencée par l'Empire autrichien, une autre qui est plus influencée par les Russes et une autre beaucoup plus influencée par les Prussiens.
Et alors, cette est de ce qui est aujourd'hui la Pologne et le début de l'Ukraine, Mathieu Larnaud dit, c'est aussi un grand territoire du judaïsme.
Oui, c'est ce qui fait aussi d'ailleurs l'intérêt de ce livre, c'est que il y a donc la situation en Pologne, la situation en Europe de l'Est. C'est très intéressant d'ailleurs ce que vous disiez, puisque au fond on peut dire que cette espèce de trouble multiculturel jeté sur l'identité polonaise, on pourrait considérer qu'il se répercute à l'échelle européenne, ou en tout cas de cette partie-là de l'Europe, et c'est à mon avis l'une des grandes forces politiques aussi du livre, mais peut-être qu'on y reviendra. Après, pour ce qui concerne donc le contexte plus spécifiquement inhérent au monde judaïque à cette époque-là, quand surgit donc la figure centrale de ce roman, à savoir Jakob Frank, il faut voir que il y a deux espèces de traumatismes finalement qui vont amener ce surgissement et la popularité et l'influence politique qu'il va gagner. Il y a d'abord eu le grand traumatisme des pogroms menés par alors moi je ne sais pas bien le prononcer, donc Mielinski. Vous allez me corriger.
Mielinski.
Bon, ben, j'arriverai pas à bien le dire, mais et donc cette grande révolte cosaque qui a perpétré des massacres sanguinaires au milieu du XVIIe, et puis ensuite là-dessus cette grande attente messianique déçue à travers la figure de Tsabata Itsevi, qui est une espèce de double inversé, précurseur de Jakob Frank, dont lui-même va réactiver la mémoire, va reprendre l'image, jusqu'à d'ailleurs quelque chose qui est très habile narrativement et que fait Olga Tokarczuk, cette espèce de prophète Nathan de Gaza dont s'était affublé, d'ailleurs on se demande si c'est pas l'inverse, si c'est pas Nathan de Gaza qui était allé chercher Tsabata Itsevi. Dans le roman, il y a aussi quelqu'un qui joue un peu comme ça ce rôle de prophète et de scribe, qui a un rôle très important narrativement, qui raconte l'histoire de Jakob Frank. Donc on a comme ça des espèces de paires finalement entre un messie et son prophète qui réactive cette image-là. Donc il y a ces deux choses sur lesquelles la figure de Jakob Frank s'appuie et apparaît.
Marie-La Laurent, quel a été l'immense travail de documentation d'Olga Tokarczuk et ensuite le vôtre? Parce qu'on suppose que pour écrire un livre pareil et même pour le traduire, il faut passer par des recherches absolument gigantesques. C'est justement 1000 pages entièrement dans des dizaines de langues et au moins 3 ou plusieurs religions. Rien que pour transcrire les noms propres en français, j'imagine que vous avez mis des mois. Juste pour retrouver les lieux et comment on les nomme.
Écoutez, non, pas du tout. On me pose toujours la question. C'était, je dirais, une traduction qui était qu'un bonheur, qui était qu'un vrai plaisir. Et je pense que toute ma formation d'universitaire était derrière cela. On ne peut pas être universitaire spécialiste de littérature polonaise en France sans avoir, pendant toute une carrière, dialogué avec toute la partie immense de la littérature en yiddish et en hébreu qui fait partie intégrante de l'ensemble de l'histoire de la littérature polonaise. Donc, moi, tout ça, je dirais que je le connaissais, et cette terre de Podolie, c'est une terre extrêmement riche, y compris pour les diverses variantes judaïques, et bon, je n'entrerai pas là-dedans, mais donc si vous voulez, tout ce monde-là, je le connaissais, et c'est très bien écrit, donc c'était facile. Je faisais tous les jours ma page de traduction avec un bonheur extraordinaire, parce que c'est à la fois bien écrit, et tout est vrai, et alors, c'est la richesse de ces personnages, parce que tous ces personnages qui apparaissent, ce sont des vraies personnes. On les voit, on les sent, et ça, c'est très facile. Et alors, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, Elżbieta Drużbacka est une poétesse polonaise, comme on l'apprend, et l'un de vous a dit, n'y a-t-il personne qui parle polonais ici? Et figurez-vous qu'une de mes collègues, qui faisait des recherches pour sa thèse d'habilitation dans le nord de la France, a découvert qu'Elżbieta Drużbacka présidait, enfin, symboliquement, une association de polonaises, femmes de mineurs polonais qui sont venues en France dans l'entre-deux-guerres. Et en 1931, dans le nord de la France, il y avait une société, Elżbieta Drużbacka, où les femmes apprenaient les poèmes de cette poétesse, qui est, je dirais, très peu connue, y compris des universitaires, enfin, les universitaires polonais spécialisés, etc., connaissent, mais pas les autres. Et ça veut dire que Olga Tokarczuk va chercher pour tous ces personnages, le spécifique. Et dans un travail que j'avais fait sur les femmes polonaises en France, eh bien, dans leurs lettres, elles écrivaient « Est-ce qu'il n'y a personne qui parle polonais ici ?» Donc, si vous voulez, il y a ce dont vous parliez, c'est-à-dire la grande histoire, telle que l'écrivent les vainqueurs, dirions-nous, les dominants. Et puis, il y a cette histoire humaine qu'on voit chez Olga. Et ça, par exemple, c'est une découverte dans le livre.
Ce qui est absolument fascinant, c'est que moi, j'ai fait l'expérience de lecture en essayant de prendre en défaut Olga Tokarczuk, c'est-à-dire je cherchais sur Internet. Non, pas les erreurs. Mais je me disais, bon, il doit y avoir de la fiction, il doit y avoir des personnages qui sont inventés. Ben, j'ai pas réussi à en trouver.
Ah non.
En fait, il y en a quand même un petit peu.
Il doit y en avoir quand même un petit peu, parce qu'elle en parle elle-même. Mais quand même, justement, cette poétesse-là qui arrive comme ça. Et alors, hop, j'ai vu, effectivement, poétesse baroque. Et donc, on a l'impression que le livre prend un ensemble de reflets presque infinis, comme si il y avait une profondeur quasi justement mystique ou religieuse. En tout cas, on pourrait presque s'en servir comme un oracle, on a l'impression. D'ailleurs, il est numéroté, on le verra tout à l'heure, d'une façon un peu spéciale, comme si justement cet objet si particulier que sont les livres de Jacob prenait vie.
Oui, tout est comme ça. Et par exemple, la prière qui revient régulièrement dans des styles différents, c'est une prière qui est déposée à la Bibliothèque nationale, qui a été écrite d'abord en français, je suppose que vous l'avez vu. Et ensuite, elle est déclinée en fonction des époques. Le plus dur pour moi, par exemple, là, ça a été de la mettre à la mode de la Révolution française, tout de même, parce que le livre passe aussi par Paris et par la Révolution française. Et alors là, j'avais beaucoup de mal. Je me suis dit que pour le public français, le plus dur, c'était de le styliser à la Carmagnole.
Oui, d'ailleurs, vous l'avez traduit avec des rimes, si mes souvenirs sont bons.
Je ne sais plus, mais c'était un exercice de style.
Jean-Yves Fautel.
Sur les personnages, je crois qu'il faut revenir sur un point. Il y a une qui s'est perdue avec ces personnages et qui ne savait plus où elle en était. C'est l'autrice, Olga, elle raconte très bien. Elle avait fait une espèce une géographie de son roman, qui était un grand rouleau de plusieurs mètres, sur lequel il y avait tous ces personnages, et tous leurs noms, leurs surnoms qui changeaient selon les époques, et elle dit elle-même qu'elle s'y perdait. Mais elle dit, de toute façon, c'est pas gênant, parce qu'il faut s'y perdre. Et d'ailleurs, nous, on se perd dans tous ces personnages. Et donc, ça fait partie aussi du plaisir de lire ce livre, que de se perdre entre les personnages. Et par exemple, cette poétesse, on va la retrouver dans des discussions avec un père qui lui-même se prend pour un encyclopédiste, un pré-encyclopédiste, mais elle va plutôt avoir une connotation féministe. Mais
cette connotation poétique, alors poétique, que lui veut la réalité, le
oui,
vrai.
Mais cette connotation, disons, poétique, féministe, ce que raconte Olga Tokarczuk, pendant très longtemps, elle ne savait rien sur cette poétesse.
Oh,
et
oui, elle
l'avait inventée, puis après, elle a trouvé des lettres. Elle a trouvé un paquet de lettres.
Je dirais que entre ce qu'elle dit, enfin, elle est d'une édition incroyable.
Ça, elle m'a dit ça au musée d'art et d'histoire du judaïsme, qu'on avait ces discussions, elle a expliqué ça. Mais bon.
Écoutons justement Olga Tokarczuk au micro de Laura Adler.
Nie zawsze fascynowały herezje.
Alors, j'ai toujours été fascinée par les hérésies.
I to nie tylko, nie wiem, katolickie, chrześcijańskie.
Nie, pas seulement les hérésies catholiques ou chrétiennes, mais aussi des hérésies juives.
Contestowanie tego, co
parce que j'ai toujours aimé la remise en cause des normes établies.
Jest właśnie taką niezwykle ciekawą nieortodoksją, która
c'est une chose extrêmement créatrice. Je pense que s'il n'y avait pas d'hérésie, il n'y aurait pas le développement des religions.
I o ile w biegunach znalazłam biegunów właśnie jako tę
dans les pérégrins, j'ai trouvé cette secte justement de pérégrins qui remettait en cause l'ordre social établi.
Tak w księgach jakubowych próbuję
dans les livres de Jacob, j'essaye de raconter l'histoire d'une secte d'hérétiques qui a vu le jour au sein du judaïsme, mais qui, avec le temps, avait de moins en moins de liens avec le judaïsme. Puisque de notre point de vue contemporain, le sabbataïsme ou le franquisme peuvent être traités comme un mouvement syncrétique. Essayant de mélanger les différentes influences. Ce qui, dans le contexte d'aujourd'hui, paraît particulièrement intéressant. Puisque les sabbataïstes et les franquistes essayaient de traiter à égalité toutes les trois grandes religions, le judaïsme, l'islam et la religion chrétienne.
Nous venons d'entendre Olga Tokarczuk au micro de Laura Adler sur France Inter en 2019. Les hérésies, cette passion pour les hérésies, et puis pour donc cette secte du judaïsme, je ne sais pas comment appeler cela, Mathieu Larnaudis, c'est le franquisme qui fait suite au sabbataïsme.
Oui, alors elle parle de syncrétisme religieux et on parlait tout à l'heure de mixage des identités. En fait, là, on a quelque chose de cet ordre. Moi, j'ai plus l'impression que le livre met en scène, à travers cette hérésie-là, ce groupe réuni autour de la figure de Jacob Frank, une sorte de mixage spirituel, comme ça, quelque chose d'un petit peu étonnant et qui ne peut finalement ne prendre corps que à cette époque-là et dans cette société-là et à cet endroit-là, peut-être même de l'Europe. On a une sorte de multiculturalisme religieux. Alors, comment ça se traduit plus précisément, sans rentrer vraiment dans les détails des points kabbalistiques, etc. Et d'ailleurs, elle part de ça. C'est quelque chose qui est très intéressant, de façon toujours avec beaucoup de subtilité, en filigrane, sans arriver en assénant vraiment des points de doctrine très très pesants. Elle fait écrire notamment à ce narrateur dont j'ai parlé tout à l'heure, donc le prophète, on peut dire, de Jacob Frank, qui s'appelle Narman Samuel Ben Lévi, rabbin de Busk, et qui, ça aussi on y reviendra peut-être sur la composition du livre, compile ce qu'il appelle des reliquats. Et ces reliquats qui sont donc en fait des notes relatives à son compagnonnage avec Jacob Frank, et par ses reliquats, on aborde tout un tas de thématiques historiques, individuelles, intimes, mais aussi religieuses. Et c'est lui qui aide à mettre un petit peu le doigt sur, j'allais dire, les a priori kabbalistiques qu'on retrouve dans la doctrine très très particulière, très singulière et un peu bancale, disons-le quand même, qui est celle de Jacob Frank. À un moment, il se converti même à l'islam, mais on va rester peut-être sur le corps du roman qui penche plutôt vers le moment de syncrétisme entre le judaïsme et le catholicisme. Oui, parce que c'est pas spécifiquement
parce que
catholique,
ça peut être
absolument.
Orthodoxe.
Oui, tout à fait.
C'est très flou.
Et il y a même ce moment où il a des disciples qui envisagent de se convertir au christianisme orthodoxe, effectivement. Bon, ça se passe beaucoup autour de la doctrine de la Trinité, cette affaire-là. C'est-à-dire que, en fait, il y a une espèce de théologie kabbalistique propre à Jacob Frank, qui va se trouver soluble dans le catholicisme, puisque c'est la seule religion qui reconnaît la structure trinitaire de la manifestation divine. Sauf que les trois incarnations dont parle Jacob Frank, la première incarnation, c'est Tzabataï Tsevi, donc dont il était question tout à l'heure. Ensuite, il y a le Saint-Seigneur, qui est lui-même, en toute simplicité. Et puis, il y a cette dame, donc qui est une espèce de messie féminin, figure très intéressante d'ailleurs, qui coïncide pour lui avec la Vierge et avec ses représentations. Et c'est en utilisant, alors d'une façon, et ça c'est pas tranché dans le livre, et c'est à mon avis quelque chose aussi de tout à fait passionnant, en utilisant cette confession trinitaire-là, que lui va arguer la légitimité de la conversion que, avec sa communauté, avec ses adeptes, ses disciples, il entend amorcer. Et c'est pour ça que l'Église va l'accepter, en fait. C'est parce que comme il y a une acceptation du dogme trinitaire, on dit, bah oui, ils sont des nôtres, finalement. Donc là, il y a une espèce de torsion très très intéressante, dont il est évidemment impossible de vraiment démêler en lisant le livre, si les attendus sont réellement spirituels, purement cyniques et politiques, ou s'il y a aussi, et d'ailleurs Olga Tokarczuk parle souvent de cette dimension-là, quelque chose de l'ordre de l'émancipation sociale aussi, dans l'accession à une identité autre qui leur permet aussi de grimper dans la société à un moment, comme le disait Jean-Yves Potel, où le monde polonais est plutôt pauvre et c'est les fond. Juifs parmi eux sont particulièrement pauvres.
Excusez-moi, je veux juste compléter ça, parce que en fait, oui, il y a ce désir de... lorsqu'on se convertissait, on pouvait avoir des terres, c'est-à-dire être anobli. Et ça, c'est un des éléments de l'histoire.
Si bien d'ailleurs que Jacob Frank finit baron polonais.
Absolument.
Donc évidemment, c'est difficile de savoir si ça n'était pas finalement sa motivation première.
Moi, je voudrais simplement rajouter une petite nuance. C'est que le rapport de Frank et de sa secte aux religions est un rapport utilitariste. On emploie, nous, le terme de conversion, mais il ne comprend pas le terme de conversion comme on le comprend, nous. Naham, dont vous avez parlé, Lévi, qui était, moi, je vois un peu comme le porte-parole de Frank, il dit très clairement, se convertir à la chrétienté ne veut pas dire devenir. C'est-à-dire, on se convertit, mais on ne devient pas chrétien. Et ça, c'est très important. Il explique que ça, c'est cette relation, on ne va pas épouser une chrétienne, on ne va pas faire l'amour à un enfant, une chrétienne, si facilement que ça. Bon, tout ça fait que ce jeu qu'il y a avec la religion est plutôt pour servir ce que vous avez invoqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'émancipation sociale et donc la promotion du groupe. Mais faisons attention à ça, parce que, par exemple, ça intervient sur une question. Prenons la question de la conversion à la chrétienté. Et là, ces discussions qu'il y a avec les évêques catholiques sur la question du meurtre rituel et sur la question des actions anti-juives, antisémites, que Jacob pratique et revendique. Non pas parce qu'il est antisémite, mais parce qu'il pense que se conformer à cette religion, c'est faire ça. Et donc je crois que c'est intéressant de voir cette nuance, parce que ça permet effectivement de parler peut-être de syncrétisme, mais surtout de comprendre le passage d'une confession à une autre tout au long du roman, et la progression que ça va indiquer.
Avec cette idée d'ailleurs, qui est, je crois, il y a cette phrase à un moment prononcée par Jacob Frank dans le livre, il dit « je ne suis pas ce que je suis ». Et évidemment, on retrouve dans cette idée-là, alors là pour le coup, une thématique proprement sabbatéenne, c'est-à-dire que donc, quand Sabbatai Tzevi se convertit à l'islam, à la cour
au milieu du siècle précédent, aux environs de 1650.
Bah, exactement, en 1666, puisqu'il y a eu des interprètes chrétiens qui ont dit que c'était cette année-là, année du chiffre de la bête, qui avait amené une telle catastrophe. Bon, quand il se convertit, il faut voir que pour la plupart des juifs qui l'avaient envisagé comme une figure messianique possible, parce qu'il faut voir quand même que Sabbatai Tzevi, au moment où il arrive, il est né à Smyrne, au moment où il passe en Europe, il est accueilli vraiment comme le messie potentiel. On pense que ça y est, qu'il est là, qu'il arrive et que donc l'histoire va être close à travers lui. Donc c'est vraiment un moment d'espérance messianique extrêmement puissant et aussitôt déçu, blessé, puisqu'il se convertit. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que la plupart des juifs, et surtout évidemment dans les traditions rabbiniques, ils se disent, bon bah voilà, on a été floués une fois de plus, le Messie n'est pas venu, on attendra de voir, et probablement ne viendra-t-il jamais. Et puis d'autres au contraire se disent que sa conversion non seulement n'est pas le signe d'un échec, n'est pas une défaite, mais au contraire la preuve qu'il est la figure messianique attendue, puisque seul le Messie pouvait aller aussi loin dans l'avilissement et l'abjection pour les racheter. Donc ils font, et ça c'est toute la tradition sabbatéenne qui est initiée, qui existe encore aujourd'hui, hein, on a encore des sabbatéens vivant dans les Donmés par exemple en Turquie, qui vivent en Thrace et à Istanbul, comme il y en a encore, absolument. Et bien sûr, Jacob Frank, il reprend cette idée-là. Donc le « je ne suis pas ce que je suis », c'est cette espèce de masque religieux qui permet à la fois de dissimuler une identité. Mais alors, la question du devenir là-dedans, elle devient intéressante, parce que est-ce qu'en grande partie, on ne devient pas les masques qu'on arbore et ça, je pense qu'il y a une dimension métaphysique dans le roman qui est extrêmement intéressante. C'est-à-dire que tout en se camouflant, tout en se dissimulant, tout en professant, comme vous le disiez, des choses qui a priori n'ont à peu près rien à voir avec le judaïsme orthodoxe, bah, est-ce qu'il ne va pas devenir aussi réellement un baron polonais ?
Marie-Laurent.
Moi, je voudrais intervenir sur... En fait, Olga, chaque passage permet de beaucoup réfléchir, en fait, et on peut le lire de tellement différentes manières. Alors là, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est tout ce qui se passe avec les prénoms. Ça, c'était une gageure pour la traduction. Et si quelqu'un voulait réfléchir sur les prénoms, il trouverait beaucoup de choses. Alors déjà, il trouverait la fake news, parce que lorsqu'il passe au catholicisme, ils choisissent le prénom de François. Et dans le texte, les prêtres catholiques qui les conduisent se disent « c'est pour Saint-François d'Assise ». Mais non, pas du tout, c'est parce que ça sonne un peu comme Franck. Donc il y a cette espèce de tricherie. Et puis, on n'a pas encore parlé des femmes, parce qu'elles sont très importantes. Je crois qu'on peut le lire comme une dominante par les femmes, parce que c'est aussi elles qui mènent l'action souvent plus que Franck hein, et que Nachman. Et l'un des personnages, Vittel, dit à un moment donné... oui, avec cette histoire de prénom, elle interroge Jacob en disant « il faut tout de même bien penser à soi par un prénom ». Et Franck lui répond « moi, j'ai toujours pensé à moi comme à Jacob ». Et alors, donc, elle lui dit « ah oui, Jacob ». Et il dit « non, non, le Jacob, celui qui se revêtit d'une peau de bête pour se glisser sous la paume de son père et être pris pour l'autre fils, le bien-aimé Esaü ». Et en fait, là, il y a toute une réflexion aussi qui va au-delà des prénoms sur le destin de l'homme. Chacun peut se dire, voilà, il y a ceux qui par destin, et je voulais dire, le contraire, c'est Chaya, qui a le prénom dès sa naissance. Le premier mot qui vient à l'esprit d'Elisha, son père, quand elle naît, à propos de cette petite, fut « vivre », Chaya en hébreu, en Chaim, Chaim est la vie. Non pas une vie végétative, pas simplement physique, mais une vie qui permet de prier, de penser, de sentir. Et cette Chaya, c'est l'autre personnage majeur du livre, parce que c'est elle qui va conduire à la petite fille à l'épinette. Et on a toujours les femmes qui sont a priori peut-être derrière, mais qui en fait disent attention. Par exemple, dans les relations sexuelles, la femme a aussi le droit de dire non. On peut le regarder, c'est elle aussi qui vont mener l'action. Et entre Chaya et Yacoub, Yacoub est celui qui va prendre une identité, va être maître de son destin, et Chaya qui l'a eu de naissance. Et lui veut avoir des terres, veut avoir, il n'est pas né noble, il ne veut pas être paysan comme sont les paysans qui labourent la terre, parce que c'est un travail plus dur que presque être juif, plus bas encore, et voilà. Donc il y a aussi toute cette réflexion, que faisons-nous dans l'adversité ? Il y a toute une série de réflexions. Chez Olga, il y a toujours la couche superficielle des événements, et puis en dessous, tout à coup, on peut y penser. Le lecteur est vraiment mis à l'ouvrage, passage par passage, ou un autre personnage qui est Gitla, et Gitla, qui, elle, sera une adepte des Lumières. Et avec Gitla, il y a des pages extraordinaires. Le moment de la mort de Gitla, on ne peut pas ne pas verser des larmes.
Jean-Yves Potel, ce qui est fascinant dans le livre de Jacob, c'est que justement Olga Tokarczuk ne tranche pas sur la possible réalité ou non du messianisme de Jacob. Finalement, on le suit un peu comme tous les témoins autour de l'époque, avec perplexité, intérêt. Et c'est justement un des grands mérites du texte que de nous donner un peu tous les points de vue possibles autour du phénomène franquiste.
Oui, ce n'est pas du tout un roman psychologique. Et c'est un roman qui est construit autour d'un voyage. Et ça, il ne faut pas oublier le voyage quand même. Parce que tout ce qu'on dit sur les personnages, sur le contexte historique, sur les hérésies, etc. Tout ça, c'est très important. Mais on est autour d'un voyage concret, avec des charrues, avec des charrettes, avec des marchés, des gens qui se rencontrent. Et dans ce voyage où on suit Jacob, en fait, Jacob, on le voit à travers des points de vue différents. On le voit au moins par 3 points de vue ou 4 points de vue. Il y en a un qui est un point de vue par en bas, qui est justement celui de Sonaram dont on a parlé tout à l'heure, qui raconte par en bas, qui prend des notes, qui lui sert un petit peu de porte-parole. Et puis on a justement un autre personnage, celui qui naît et meurt dans les premières pages du livre, on ne sait pas trop s'il est vivant ou s'il est mort, qui est une jeune fille, une femme, qui est en fait une grand-mère de Jacob, et qui, selon l'expression, aujourd'hui c'est très d'actualité, mais selon l'expression de l'époque d'Olga Tokarczuk, est comme un drone au-dessus de cette histoire, et qui regarde le voyage comme ça, et qui le raconte comme ça. Avec ce phénomène-là, on a aussi une façon d'écrire, une façon de construire le roman où les personnages ne sont pas faits comme dans un roman psychologique du 19e siècle ou du début du 20e, mais sont construits où on les voit avec différents points de vue et on les suit. Et donc la question du devenir du personnage, effectivement, on ne sait pas trop où il va et puis on le suit. D'ailleurs, elle décrit la communauté autour de Franck. On pense à plein de communautés d'aujourd'hui. Hein, par exemple, justement, cette petite communauté qui se crée où ils ont un territoire qui leur est donné par le roi de Pologne. Alors, on peut y trouver, dans la façon dont c'est raconté, un pressionnisme où ils ont leur territoire. On peut aussi voir une image du communisme, puisque il y a une espèce de communisme sexuel qui s'établit, avec ses caricatures d'ailleurs. Et tout ça fait qu'on suit ce personnage dans des situations différentes, mais on ne sait pas trop où il va. Et moi, je trouve que quand j'ai lu ce livre, j'ai mis un mois à le lire en entier, vraiment bien. J'étais presque addict de ce livre parce que j'allais d'une histoire à l'autre. Et ces histoires sont toutes construites comme des fables, c'est des histoires racontées comme ça. Et c'est ça qui est très intéressant. Et bien sûr, en même temps, on apprend beaucoup de choses sur les hérétiques juifs et sur leurs conflits avec les autres églises. Mais je voulais insister sur cette question du grand voyage qu'est ce livre.
Mathieu Larnaudy, sur la structure du roman.
Oui, mais vous avez d'ailleurs raison de dire que ce grand voyage, il se traduit avant tout par des choix formels, par des choix narratifs. Et moi, c'est quelque chose que je trouve absolument magistral dans ce livre. Vous disiez tout à l'heure qu'on s'y perdait un peu. Oui, c'est vrai, on s'y perd puisque c'est un livre composite, c'est un livre pluraliste, c'est un livre mélangé dans lequel apparaissent différents niveaux de narration et différents genres aussi de narration. On passe de toute une correspondance, il y a toute une partie épistolaire dans ce roman, au fameux reliquat de Nachman Samuel Ben-Lévi dont il était question tout à l'heure. La majeure partie du texte, on peut dire, qui est un récit à la troisième personne. Et puis, donc, ce qui est vu par les yeux de cette narratrice Yanta, que je trouve une création à la fois littéraire et narrative absolument magnifique et extraordinaire, puisque... Oui, c'est ça, c'est un drone. Donc en fait, son regard se promène. Son regard est un souffle, en réalité, qui passe d'un espace et d'un temps à l'autre, et qui permet à la fois de faire le lien entre toutes ces pièces du puzzle-là dont on vient de parler, mais aussi de faire que finalement le lecteur la suive, que le lecteur circule avec elle au milieu de toutes ces réalités.
À sa naissance comme à sa mort.
Exactement,
c'est ça qui sont toutes les deux extraordinaires.
Et alors la mort, en fait, on ne sait pas si elle a encore justement un dernier souffle. Ou si, finalement...
Elle est morte sans être morte.
Oui. Elle est morte sans être morte. Elle est dans une caverne.
C'est un viol aussi, parce qu'il a toute l'histoire de sa naissance.
Absolument. Et à la fin, elle est dans une caverne où elle fait corps, comme si elle se calcifiait avec la pierre de la caverne. Si bien
caverne
qu'on
protectrice
sait plus...
pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Voilà. Oui, on ne sait plus si elle est un cristal, une pierre. Ou un corps enfermé dans une espèce de précipité minérale comme ça, un peu étrange. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très beau. Alors, c'est par elle qu'on entre dans le livre, hein, Yenta. C'est la première page, le prologue. Elle avale une amulette. Ça ira comme ça. Et sur laquelle est écrit en lettres hébraïques le mot attendre. Et de fait, elle attend. Elle est dans cet état intermédiaire entre la mort et la vie. Elle se fond, elle devient une espèce de pierre comme ça, elle voit tout d'en haut. Chaque fois qu'elle reprend, qu'elle réapparaît, on redit, voilà, ce regard d'en haut, comme ça. Et il y a cette phrase incroyable qui dit « le vent et le regard des morts ». Donc, elle est à la fois le vent et donc dans cet état intermédiaire.
Et c'est cet énième voyage, ce voyage absolu, puisqu'elle nous emmène au-delà du concret, du matériel.
Le voyage de plus, et parce que c'est aussi la fin, en fait, en réalité, du livre, hein, selon le compute. Partons en voyage, mais cette fois-ci en musique.
Porque lloras, no.
C'était l'ensemble Espérion 21 de Jordi Savall et Montserrat Figueras qui interprétait une ancienne mélodie séfarade des Balkans en ladino. Por qué lloras, Blanca Niña? Pourquoi pleures-tu, fille claire? Les Balkans ottomans et la ville de Salonique sont le point de rencontre entre judaïsme séfarade et ashkénaze. Et c'est justement une des dimensions assez fascinantes du roman que de faire aller finalement ce que nous concevons aujourd'hui depuis notre point de vue français comme étant le Europe de l'Est, de la faire coïncider avec justement les frontières de l'Empire ottoman et de nous emmener par ce grand voyage dont vous parlez, Jean-Yves Potel, jusqu'au cœur de l'Empire ottoman.
Quand on vit dans l'Est de l'Europe, elle le dit aussi elle-même, mais c'est une chose que j'ai souvent constatée, on est très étonné par le fait que l'Ouest ne nous connaisse pas. Parce qu'eux, ils connaissent très bien l'Ouest. Ils connaissent la littérature, ils connaissent le théâtre, ils connaissent la science, etc. Et eux, ils ont une littérature, ils ont une culture, ils ont ça, mais ils sont très étonnés que l'autre côté de l'Europe ne les connaisse pas. Et ça, ça crée un problème. Et c'est intéressant par rapport à ce que vous dites et le voyage en question, parce que le voyage en question, le grand voyage en question, c'est un voyage autour d'une quête d'identité. Et cette quête d'identité, ça pose en permanence la question de l'autre. Et on sait très bien que c'est à partir du moment où on considère l'être humain comme un être mobile, un pérégrin, dirait Olga Tokarczuk, et qui doit rencontrer d'autres pérégrins, on va se retrouver dans une situation où il y a la question de l'identité. C'est la question de l'identité et de l'autre, ne d'ailleurs pas une question que l'on traite forcément de façon sympathique. Elle peut être facteur d'énormes conflits, j'en ai évoqué tout à l'heure, mais c'est ça. Et donc on est dans une situation, quand on dit qu'ils vont jusqu'à l'Empire ottoman, on trouve ça tellement bizarre. Enfin, il faut dire que la Podolie avait quand même la réputation d'être dans l'imaginaire polonais, c'est pas le cœur de la Pologne. C'est quand même une région qui était assez compliquée, avec beaucoup de Juifs et beaucoup de Turcs, de gens de toutes sortes. Mais je crois quand même que c'est cette question de l'autre qui est posée à travers la question de cette division géographique de l'Europe qui reste dans nos têtes quand on aborde Olga Tokarczuk aussi à l'Ouest. Et donc c'est en cela son livre est à mon avis important parce que on a parlé du grand voyage, mais il dit que ce grand voyage est rapporté, c'est la fin du titre, est rapporté par les défunts. Le récit se voit complété par l'auteur, c'est-à-dire qu'elle fait entendre de l'imagination, selon la méthode des conjectures, puisée en divers livres, mais aussi secourue par l'imagination qui est le plus grand don naturel reçu par l'homme. C'est-à-dire qu'on va aussi combler comme ça les vides.
Et c'est aussi au lecteur de combler.
Oui, bien sûr.
Mais Martin Arnaudi, on se trouve vraiment justement au cœur de l'Empire ottoman, se déroule une grande partie du livre, par la Moldavie d'abord et puis ensuite justement par tout ce contact avec l'islam qui est extrêmement important.
Alors, on n'est pas tellement au cœur de l'Empire ottoman, on est sur la frontière. C'est ça qui est passionnant, je trouve, y compris d'ailleurs dans ce à quoi ça nous renvoie politiquement aujourd'hui, bien sûr. Puisque bon, quand on écrit un roman historique comme ça, ancré à un moment de l'histoire et en plus dans une histoire aussi spécifique et aussi méconnue, même si en grande partie grâce à elle, elle l'est moins aujourd'hui. aujourd'hui, évidemment, on n'écrit pas ça pour rien. On n'écrit pas ça aujourd'hui pour rien. Donc, si elle va chercher cette histoire-là, c'est aussi, bien entendu, pour dire quelque chose de la réalité européenne et polonaise contemporaine, et notamment donc de ces questions de crispation, de rigidification identitaire qu'on évoquait tout à l'heure. Là, on voit quoi sur cette frontière? On voit un monde d'échanges, on voit un monde de frictions, on voit un monde de tensions, on voit un monde extrêmement mobile, avec des circulations permanentes, économiques, mais aussi migratoires, humaines, etc. Et on voit à quel point cette frontière donc entre la Pologne de l'époque, donc tout ça se situe en Ukraine hein, aujourd'hui, et l'Empire ottoman, faisait tout simplement partie de l'Europe, quoi, de sa vie culturelle, économique, spirituelle, à quel point ça a innervé l'identité européenne au plus haut point. Et donc c'est vrai que, vous aviez raison, méconnaître cette partie-là de l'identité européenne, c'est probablement une construction occidentale qui, dès qu'on regarde un petit peu plus à l'est et un petit peu en arrière, saute d'elle-même, si je puis dire. Il y a un truc intéressant d'ailleurs, je note ça comme ça un peu en passant, l'un des points communs entre Tsabataï Tsevi et Jakob Frank, c'est qu'ils sont tous les deux nés d'un père séfarade et d'une mère ashkénaze. Donc déjà, à l'intérieur même de l'identité juive, ils sont déjà, si je puis dire, les objets d'une mixité culturelle. Ça, c'est très intéressant. Et donc, c'est par ces personnages-là que ce multiculturalisme religieux apparaît.
Il y a une très belle image de ça, c'est au moment du mariage. Parce que toute la famille qui se réunit, alors là, toute la famille qui vient de très très loin. Le mariage se situe à Rohatyn, mais c'est une étoile. Les gens sont venus de partout. Et ça, c'est une très belle image. Et évidemment, quand Yenta commence à donner des signes de faiblesse et vouloir mourir et que les sages, les hommes sages se réunissent pour savoir est-ce qu'il faut d'abord se marier ou d'abord faire les funérailles, ils décident qu'évidemment, ce sera d'abord passer les funérailles. Et c'est là où intervient Chaya, qui est la vie et la réflexion, qui va bloquer cette mort pour que le mariage se fasse, puisqu'ils sont venus de très loin. Et à cette étrange, à la fois communauté et à la fois toute cette diversité. Et ça, dans ce livre-là, mais dans tous les autres, elle montre toujours les diverses manières de voir le monde. D'ailleurs, à la fin, il y a une phrase de Diderot à laquelle elle revient, en disant que quelle que soit la manière dont on regarde les choses, on peut toujours les regarder sous un autre angle et les voir autrement. Et c'est une très belle proposition dans son texte.
Écoutons un second extrait des livres de Jakob, lu par Élodie Hubert.
Les grands projets de Thomas von Schönfeld. Les appartements de Jakob sont au premier étage. On y entre directement par la galerie. Il y a des vitraux aux fenêtres. Ils sont immenses. Et aussi des tapis partout, comme il aime. On s'y assoit à la mode turque sur des coussins. Le lit est dissimulé par d'épais kilim. Dans la mesure où l'humidité règne dans ces pièces, Eva n'oublie pas d'y faire brûler de l'encens chaque jour. Les encensoirs sont allumés jusqu'à midi, et chacun a l'obligation de venir dans la matinée au temple. C'est ainsi qu'ils appellent la salle de réception de Jakob. Et après avoir prié, de s'incliner en direction du maître dissimulé au fond de la pièce. Eva sait très précisément qui est venu et qui n'a pas rempli ses obligations parce que les vêtements s'imprègnent de l'odeur de l'encens. Il suffit de les renifler. Madame Zierchowska, qui a le droit d'entrer chez le maître à toute heure de la journée et de la nuit, lui ramène des fillettes pour réchauffer sa literie. Plus le maître vieillit, plus il aime les toutes jeunes. Il leur demande de se déshabiller, de s'allonger près de lui dans le lit, deux par deux. Habituellement, elles commencent par être horrifiées, mais très vite, elles s'habituent et rient dans les draps. Parfois, le maître plaisante avec elles. Ces jeunes corps font penser à la racine du persil, longue et fine. Madame Zierkowska ne s'inquiète guère pour leur vertu, le maître n'est fort qu'en parole. Quelqu'un d'autre devra se charger de leur pucelage. Ici, elles doivent seulement réchauffer le maître.
France Culture, les romans qui ont changé le monde. Mathias Sénard.
Nous venons d'entendre un second extrait des livres de Jakob d'Olga Tokarczuk, traduit par Mirella Laurent. Et d'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez de ces moments de traduction? Est-ce que quand vous réécoutez aujourd'hui, vous vous rappelez, vous vous revoyez devant votre ordinateur?
Oui.
Parce que finalement, c'est pas tant Olga Tokarczuk qu'on entend que vous, finalement.
C'est elle, parce que, vous voyez, là aussi, elle dit des choses, elle les dit avec une subtilité extraordinaire. Et bon, là, on vient de l'entendre, où à la mort de Jakob Frank, On voit quelle était la relation de Jacob et de sa fille. Mais là aussi, quand on voit ce soulagement de sa fille qui se couche, mais c'est dit avec une extrême subtilité, une extrême finesse. On comprend très bien, mais il n'y a rien de je peux même pas utiliser le mot grossier. Il n'y a rien de choquant. Il n'y a rien de voilà. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de. Les mots sont très choisis. Donc je me souviens bien parce que mais elle est tellement précise dans son écriture de ce roman que ce n'était pas un problème de la suivre. Parfois on est obligé d'inventer, enfin de donner une version française à un texte. Bon parce que c'est dur. Là non. Là tout est chez elle. Donc il suffit de la suivre. C'était. Mais je me souviens bien de ce passage.
Il faut dire un mot de Eva, justement, de la fille, de Jacob Frank, Mathieu Larnaudy.
Oui, ben, notamment dans ce rapport avec son père, c'est vrai qu'on comprend quand même un peu tout du long. Bon, c'est aussi Jacob Frank, il y a Olga Tokarczuk dit qu'elle a beaucoup lu Cholem, et il y a cette formule de Cholem, et c'est le mauvais prophète, hein, Jacob Frank. Contrairement à sa bataille Séville, qui est peut-être un faux messie, mais qui est quand même une figure fascinante et assez valorisée, Jacob Frank a toujours été plutôt diabolisé, et diabolisé au même titre que le sont certains meneurs de dérives sectaires, et il partage avec ces dérives-là et avec ces sectes-là, notamment une propension quand même à l'instrumentalisation des corps des disciples, des apôtres et de leurs familles et des femmes autour. Et sa propre fille n'y échappe pas. Donc c'est vrai que leur rapport, leur relation est très 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 trouble, très ambigu. Elle est à la fois, elle est là tout le temps, elle est sa plus proche conseillère presque, hein, on pourrait dire. Et en même temps, on sent quand même à sa mort ce soulagement, ouais, presque ce relâchement, comme si quand même une espèce de point de tension immense dans sa vie venait de céder. Et évidemment, de manière là aussi très subtile, ça dit tout de leur relation et de ce qui était plutôt c'est-à-dire qu'on le comprend assez vite, ça, dans le roman. Mais c'est toujours dit de manière extrêmement allusive et subtile, et comme à peu près tout d'ailleurs dans le livre, de façon à ce qu'on comprenne très bien.
Et mais on comprend ce qu'on veut.
On comprend ce qu'on veut,
mais y a une
et c'est jamais
directrice.
Les pieds dans le plat non plus. Il y a toujours une espèce de latitude comme ça d'interprétation.
Oui, par exemple, là, chez Eva, il y a ces maisons de poupées qui la fascinent, par exemple. Et c'est vrai que elle a tout de suite été dans une situation de mission et pas d'enfance.
Ouais.
Pas d'enfance. Enfin, il y a tout ce côté-là et c'est aussi un personnage important.
Oui, oui, absolument.
Elle va poursuivre, je l'ai dit, après la mort de Franck, elle va poursuivre le.
Mais c'est pas dans le livre.
D'accord, mais il faut le savoir. Comme
oui,
je pense
ça,
que c'est intéressant pour le personnage.
Part,
Parce que c'est. Bon, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais je pense qu'il y a aussi cet ambigu, c'est-à-dire qu'à la fois, elle est pour, elle est contre, on ne sait pas trop. Et je pense que ça serait intéressant de, on n'aura pas le temps, mais d'approfondir ces rapports aux femmes, les rapports sexuels. Parce que quand dans cette communauté qu'ils ont créée, où lui est très puissant et n'est pas encore un vieillard, c'est pas tout à fait comme à la fin avec des jeunes filles autour de lui. Il choisit toutes les femmes, il les fait venir. Il y a à la fois un communautarisme sexuel, mais il y a aussi une domination machiste et une domination du maître qui est quand même très important, qui est assez choquant.
Très contesté.
Oui, qui est contesté, mais ça nous choque, disons, d'une certaine manière. Bien et sûr. Je crois même d'avoir lu, je ne sais plus où, que Olga Tokarczuk, ce côté de Franck ne lui plaisait pas vraiment. C'est-à-dire qu'elle avait du mal
c'est
avec lui.
Bien sûr. Il est un peu déplaisant quand même sur
bien
des aspects. Et notamment, de toute façon, ce traitement sexuel au sein de sa secte est l'élément principal de diabolisation de Jacob Frank. Parce qu'il y a quasiment une damnation mémorielle sur Jacob Frank. Et évidemment, c'est en grande partie à cause de ces dimensions-là.
Oui, mais elle le met à la fin dans un décor qui fait penser plutôt au Baba Cool d'une autre époque, c'est-à-dire avec tous ces kilims.
Oui, mais justement, c'est plutôt l'aspect un peu pacha ottoman.
C'est un mélange entre Charles Manson et
exactement.
Un pacha ottoman, quoi.
mais ce qu'elle dit, je pense qu'elle est. C'est pour ça qu'elle fait parler tous ces personnages autour, parce qu'elle ne veut pas donner d'avis. Dans le roman, il n'y a pas d'opinion. On peut se faire une opinion sur lui, mais c'est les divers personnages qui s'expriment, les uns admiratifs, les autres pas du tout. Mais le pas Olga. Enfin, c'est pour, elle le dit d'ailleurs, hein, qu'elle l'a construit comme ça, son texte, pour ne pas avoir d'avis.
Oui, il y a une sorte de suspension de son jugement à elle, ça oui, c'est oui, sûr. Oui. Mais c'est aussi ce qui fait toute la complexité des personnages et la beauté du livre. C'est que absolument personne dans ce livre n'est univoque. Et même Jacob Frank. En fait, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est qu'au fond, il est un peu passif ce personnage, dans le sens où il s'offre comme une espèce de surface de projection aux fantasmes et aux croyances que les autres veulent bien mettre en lui. Évidemment, de façon un peu cynique et manipulatrice. Mais il a aussi cette ambiguïté des grands mystiques qu'on retrouve souvent, c'est-à-dire que en fait, on a du mal parfois, quand on considère ces personnages, à faire la part entre la théâtralité et le rituel, entre la croyance et l'engagement spirituel réellement vécu et la politique.
Oui, et derrière il y a les femmes qui mènent l'action.
C'est tout à fait.
En fait, Chaya. Oui. Chaya est un des personnages majeurs de ce livre. Gitla est un personnage, et évidemment Yenta qui mène l'action, qui est l'espèce de cœur grec qui nous résume, qui nous
explique. Ouais, ça c'est vraiment merveilleux. Et Chaya, c'est intéressant parce que donc ça veut dire vie, et c'est la seule qui change pas de nom.
C'est
comme si la vie était la seule chose immuable au milieu de toutes ces transformations onomastiques. Alors là, vous parliez de la sédimentation des significations dans le roman. On pourrait les déplier à l'infini.
Je voudrais pas qu'on se quitte sans évoquer tout de même un aspect qui me semble clé des livres de Jacob, qui est justement le rapport aux lumières et aux pensées justement plutôt du 18e siècle, dont nous avons l'habitude, en tout cas, vu depuis la France et aux auteurs français. Vous citiez cette phrase de Diderot. Et j'ai l'impression que le livre de Jacob rajoute justement une brique ou une pierre dans cette littérature des Lumières et du 18e siècle,
Jean-Yves Coitel.
C'est-à-dire que elle résume Franck comme un lieu où se croise, où se retrouve à la fois ce désespoir qui existe avec les pogroms et ça dans la communauté juive et l'arrivée des Lumières. C'est-à-dire qu'ils sont cette espèce de croisement qui est à la fin du XVIIIe siècle. Pour elle, c'est ça qui incarne d'une certaine manière Franck et son aventure. Et les Lumières, elles sont présentes par le biais de plusieurs personnages. Et puis, à l'époque, le dernier roi polonais se réclamait des Lumières, celui qui va disparaître à la fin. Et il y a eu plusieurs auteurs qui se tournaient aussi vers cela.
C'est le personnage du médecin,
Asher,
qui est le représentant des Lumières. Bon, il y a aussi Emmanuel Kant qui apparaît en Autriche, parce qu'il y a toutes ces religions, il y a aussi toutes ces mystiques, il y a aussi tout cela. Et les Lumières apparaissent comme quelque chose qui donnerait de l'oxygène, en fait. Et ces personnages, que ce soit Asher ou Gitla, par exemple, qui dit « Ah, mais si les femmes pouvaient ne pas avoir tout le temps des enfants », enfin, il y a cette aspiration aux lumières qui est très importante et qui surfile, et que ce soit l'esprit et non plus le souffle ou l'âme.
Pour conclure, Mathieu.
Et il fait même de Jacob Frank et de sa communauté une espèce de préfiguration, en effet, des Lumières par la question de l'émancipation sociale, puisque finalement aussi cet utilitarisme religieux et politique dont on parlait tout à l'heure, c'est un facteur d'ascension. Et quand même, pour finir, on utilise le mot lumière, c'est le dernier mot du livre. Je peux lire les deux, trois dernières lignes,
géniales,
parce qu'elles sont absolument incroyables.
En
plus, elles ne trahissent rien du suspense trépidant qui parcourt le texte, donc je peux tout à fait les lire. C'est justement, le livre s'ouvre et se clôt par Yenta, donc, ce personnage qu'on évoquait tout à l'heure. « Il est néanmoins écrit que celui qui se soucie de la question des messies, y compris de ceux qui ne s'accomplirent guère, quand bien même ils se contenteraient de raconter leur histoire, sera traité pareillement à celui qui étudie les mystères éternels de la lumière. » Quand même magnifique.
Nous quittons en musique avec l'orchestre du Bélarus qui joue le quadrille numéro 1 en fa mineur de Michal Oginski, compositeur polonais du début du 19e, un autre monde qui s'ouvre justement à la fin. Après les livres de Jacob, les quadrilles, les valses et les polonaises vont résonner dans l'Europe entière. Merci beaucoup Mathieu Larnaudy, merci Marie-La Laurent, merci Jean-Yves Potel de nous avoir accompagnés dans cette émission consacrée au livre de Jacob d'Olga Tokarczuk, réalisée par Laure-Hélène Planchet, avec Stéphane Touvenin à la technique aujourd'hui. Un grand merci à Aurélie Marsay pour la préparation. C'était la dernière émission de la série consacrée aux romans qui ont changé le monde sur France Culture. Je vous souhaite un excellent week-end et une belle rentrée la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de réécouter les romans qui ont changé le monde sur l'application de Radio France ou le site de France Culture.